Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes sur Radio Galère 88.4 et vous êtes sur l'émission L'Art Osez tous les troisièmes lundis de chaque mois de 16h30 à 18h. Aujourd'hui avec nous, en ce lundi 16 mars, nous recevons Jérémy Béchon de la compagnie et le collectif Manifeste Rien. Jérémy, bonsoir. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, Jérémy Béchon est un auteur de théâtre, un metteur en scène de théâtre, mais aujourd'hui, c'est pour une autre raison que le théâtre que nous sommes ici, c'est pour le premier roman de Jérémy Béchon. Jérémy, comment ça va ?
Bien, bien.
Alors Jérémy, on t'a reçu déjà plusieurs fois ici sur cette émission de L'Arrosée sur Radio Galère. Je suis très heureux de te recevoir encore une fois. Jérémy, les Marseillais te connaissent parce que tu es à l'origine de la compagnie Manifeste Rien, qui est une compagnie de théâtre marseillaise, et que tu es auteur et metteur en scène dans cette compagnie. Mais aujourd'hui, c'est pour un nouveau sujet que les gens vont te découvrir. C'est pour l'écriture d'un roman qui s'appelle L'éclat des fracas et qui est sorti aux éditions Quiero en ce début d'année, c'est bien ça ?
En septembre, oui.
En septembre, ce début d'année scolaire. Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter et nous parler de L'éclat des fracas, ce nouveau roman des éditions Quiero ?
Ben, c'est un roman qui est composé de fragments de vie, d'éclats de vie qui éclatent. Et comme le photographe ou le peintre peut figer le fracas d'une vague qui percute la roche ou d'un verre qui éclate au sol, moi j'ai voulu capturer l'instant où les individus se brisent, basculent et se révèlent. Et que ce soit au travail ou bien chez eux à ne rien faire, que ce soit devant l'immensité lumineuse de la mer ou à l'ombre d'une ruelle.
Et du coup, tu t'es inspiré de gens que tu as réellement rencontrés à Marseille ? Ou dans les alentours, ou c'est des gens qui sont totalement sortis de ton imagination ?
Disons que j'ai poursuivi la fréquentation de ces gens par ma propre imagination, mais c'est le portrait. Moi, j'ai écrit ça il y a plus de 20 ans maintenant, et j'habitais dans le quartier du Panier, qui a beaucoup changé d'ailleurs depuis. Et c'était mes voisins, c'était moi-même, c'était tous ces gens qui vivent... pas très loin de la précarité, pas très loin de la marginalité, mais je me suis aussi inspiré d'autres personnages qui m'étaient familiers pour voir la réalité sociale à travers l'intimité des personnages.
Alors L'éclat des fracas, du coup, c'est un roman, mais un roman un peu particulier parce qu'en fait, il est composé de plusieurs chapitres qui ne sont pas directement liés entre eux et qui, en fait, chaque chapitre nous parle et représente et nous montre l'intimité et un pan de vie d'un personnage.
Oui, il s'agissait de pénétrer, justement, comme vous le dites, l'intimité des personnages, qui sont tous liés entre eux, mais sans se connaître. Donc, ils peuvent être liés par un environnement d'un quartier, d'un immeuble, d'une soirée ou d'un chien. Ouais. Parce qu'il y a aussi des animaux qui font le pont entre les différents personnages dans la première partie. Puis, je me suis lassé de faire des liens fictionnels, narratifs entre ces personnages-là. Donc, par la suite, dans le deuxième chapitre, les personnages sont reliés directement par une même émotion, un même ressentiment, que ce soit la colère ou la rage. Puis, enfin, dans la troisième partie, les personnages sont dissolus, absents, satellitaires à travers le récit plus long que les précédents, où on suit un manœuvre qui creuse une tranchée au pied de la scène Victoire.
Alors pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, quand on lit l'éclat des fracas de Jérémy Béchon, ce qu'on ressent, c'est comme si chaque personnage était une espèce de couleur qui venait et qui nous créait un tableau dans notre esprit, dans notre cœur. Et même si ces couleurs n'ont pas de lien entre elles, elles viennent toutes se mélanger pour créer ce tableau, qui est un tableau où il peut y avoir une forme de désillusion, mais une rage latente. Au fond, moi j'ai senti ça en le lisant, une espèce de rage latente qui dort dans chacun de ces personnages Et ces personnages, je dis latentes parce que ils ne portent pas cette rage. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais ils subissent un peu leur vie. Et par exemple, ce que ces personnages peuvent subir, c'est, j'ai l'impression, toutes les injonctions que la société nous oblige à avoir, qu'elles soient liées au travail, qu'elles soient liées à la famille, qu'elles soient liées à l'amour même, et voire même à la sexualité. Et on dirait que ces personnages se débattent là-dedans et ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils sont.
Oui, je me suis demandé qu'est-ce qu'avaient en commun les gens qui ne se connaissent pas et qui souffrent en commun. Donc cet environnement qui peut être la rue, le quartier, la ville, les éléments qui eux se dressent, s'éteignent et renaissent quoi qu'il arrive. Et ces personnages, qu'ils soient femmes de ménage, cadres supérieurs, clochards ou manœuvres, subissent une même perte de sens de leur existence, effectivement. Et c'est cette perte de sens, ce grain de sable sous le capot, qui les rend plus clairvoyants à eux-mêmes, plus clairvoyants que celles et ceux qui ne perdent pas leur boussole intérieure, que ceux qui sont convaincus du bien fondé de leur existence et de leur productivité, donc de la valeur de leur productivité. Ces gens-là sont dans ce système-là parce qu'ils y sont forcés par l'injonction sociale, parce qu'il faut bien travailler pour manger, parce qu'il faut bien payer son loyer pour avoir un toit. Mais ils sont aussi dans ces crises, puisque les personnages se brisent en permanence, et c'est pour ça que le roman ou que le récit est composé de fragments, puisque ce sont des fragments de vie, et à l'intérieur de ces fragments de vie, le moment où les gens se cassent. Et ils n'ont pas les moyens intellectuels ou financiers de nommer ce qui les oppresse. Parce qu'à la différence de ce qu'on fait dans le théâtre où on utilise, c'est les comédiens qui utilisent l'intimité, qui vont partager leur propre intimité des personnages avec le public. Là, en littérature, j'ai voulu voir ce qui se passe à l'intérieur des gens quand le système les broie. Et là, on ne peut plus parler de système capitaliste ou parler de système objectif de production, même si c'est l'arrière-plan de ce quadrillage social qui oppresse les personnages. Mais quand on est complètement perdu et déboussolé, on n'a plus que soi-même à s'accrocher. Et on glisse en permanence vers le fond, mais on n'est plus capable, encore une fois, de nommer... Cette machine qui nous broie en permanence. Et c'est cette intimité-là qui m'intéressait tout particulièrement. Et du coup, malgré les différents personnages, on retrouve cette même émotion, je pense.
Ouais. Et du coup, on est sur des personnages qui ne peuvent pas avoir conscience ou qui ne peuvent pas théoriser, on va dire, leur état et leur souffrance. Et du coup, on est à la fois très proche d'eux. Quand on lit ton livre « L'éclat des fracas », chaque chapitre, chaque personnage qu'on suit, en plus, apporte une sorte de pierre à l'édifice et à la sensation qu'on ressent en tant que lecteur, qui peut à la fois être des fois étouffante, parce que c'est comme un éclat, justement, comme quelque chose qui se brise. Et du coup, en nous-mêmes, ça peut nous briser et on peut s'y reconnaître. Et en même temps, il y a une catharsis réelle avec les personnages. On s'identifie à eux, justement, parce qu'on est très proche de leur souffrance et aussi leur joie. Il y a des joies, des quelques joies, des lumières comme ça, des lucidités des personnages. Mais tu as choisi de n'avoir un narrateur qui n'est que extérieur, omniscient. Il n'y a jamais de point de vue interne, un narrateur qui parle en jeu.
Il y en a très peu, il y a quand même... La majorité est écrite à la troisième personne, mais il y a aussi quelques formes à la première personne du singulier dans le...
Il y a des chapitres entiers
dans le récit. Oui, des fragments, mais c'est vrai qu'ils sont minoritaires. Ouais. Mais c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'est cette étrangeté du quotidien que subissent justement les protagonistes, parce que c'est les héros d'une petite tragédie en prose. Et cette défamiliarisation du vécu. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est notre propre vie en permanence. On sait que demain ne sera pas un autre jour, mais un même jour comme celui-ci. Et c'est ça qui devient très dur à encaisser. Et à la fois, c'est sans cesse une étrangeté, encore une fois, par rapport à cette réalité, puisqu'on n'a plus de prise sur celle-ci.
Et du coup, qu'est-ce qui t'a... Est-ce que Marseille t'a inspiré directement pour écrire ce livre ? Tu es Marseillais, ça fait longtemps que tu vis ici. Et Marseille, c'est une ville où cette question-là de qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on est dans la société qui nous écrase, elle est assez présente, notamment peut-être parce que c'est une ville qui ne se laisse pas totalement faire sur ça. On n'est pas à la Défense ou dans une banlieue froide parisienne. Il y a quelque chose de... Les fracas, on les voit dans la rue. On en voit souvent. Mmh. Des fois, on les fuit. Des fois, on les rencontre. Chacun son rapport avec ça. Marseille, c'est un peu une ville de fracassés, de fatigués, que ce soit des gens corporate ou que ce soit des clochards. Comment ça t'a inspiré, cette ville? Et toi qui es Marseillais, est-ce que tu aurais écrit autre chose si tu n'étais pas à Marseille?
Bah, disons que le point de vue que j'ai choisi, c'eût été le même si j'étais né à Tourcoing, je pense. Mais évidemment, la ville de Marseille imbibe en permanence les personnages et ils se fondent avec les éléments, parfois, puisqu'il y a aussi l'éclat du soleil, aussi, cette percée de la mer ou des collines auxquelles ont accès les personnages. Mais ils sont en symbiose avec cet espace urbain en déréliction, avec cet abandon, avec cette masse qui est une masse d'individus hétéroclites, mais qui fusionne justement dans cet élément qui est la ville et qui est vivant. Et effectivement, les gens qui connaissent la ville de Marseille la trouvent extrêmement prégnante dans le roman, même si j'ai fait attention à très peu la nommer. C'est-à-dire que je voulais pas mettre en avant cette identité-là marseillaise de suite, ce que j'ai pu faire dans d'autres pièces de théâtre de manière très affichée. Hein. Mais dans cet exercice-là de littérature, je voulais pas que ce soit mis en avant.
Ouais. Il y a deux passages, peut-être qu'il y en a d'autres, mais il y a deux passages qui m'ont marqué où il y a la présence de la nature naturelle pour le coup, et pas de la nature urbaine, pas du paysage urbain. Il y a la Sainte Victoire qui est présente dans un des chapitres, une espèce d'énergie puissante, massive, peut-être de nos échecs, mais peut-être aussi de ce qui est là et ce qui sera intouchable en nous-mêmes. Et il y a la mer. Et d'ailleurs, on va écouter un premier extrait qui va permettre aux auditeurs et auditrices de sentir l'écriture de Jérémy Béchon et de se faire une idée de ces personnages en quête de sens et au milieu de ce paysage. Du coup, le premier extrait qu'on va nommer La femme de ménage, c'est tout de suite.
Elle surplombait l'immensité de la mer. Le mistral nettoyait le ciel. Tout était entièrement bleu. Un jogger la dépassa, l'odeur de transpiration gicla à ses narines. Elle se souvint du médecin qui lui avait conseillé le jogging contre les varices. Elle avait choisi les varices. Elle se rendait chez Madame Piquemal, l'appartement jamais ouvert car, comme disait la vieille, après, faut tout fermer. Madame Piquemal en était arrivée au point, et depuis longtemps, où elle ne faisait plus que ses besoins vitaux, et attendre dans le fauteuil du salon, face au volet clos, la femme de ménage. Elle gravit l'escalier de roche blanche, reprit son souffle devant la porte, ouvrit. La vision de l'appartement la tristait toujours. Les tapisseries partaient en lambeaux, la moquette en pelure. Son appartement finirait dans le même état le jour où elle abandonnerait les travaux d'entretien, comme elle avait abandonné l'idée d'entretenir son corps, de combattre les varices. Le jogger devait avoir abandonné quelque chose de lui pour courir en moule bite un lundi matin sur la corniche jusqu'à puer de la sorte. Seul le soleil et le vent pouvaient exister sans renoncer chaque lundi un peu plus à eux-mêmes. Elle posa son sac sur la commode en plastique, noua ses cheveux, prit l'aspirateur dans le placard. La voix chevrotante de Madame Piquemal ne se fit pas entendre. Elle lâcha l'aspirateur, sa crainte se confirma au bout du couloir. Madame Piquemal n'était pas dans le fauteuil du salon. Un post-it signé du médecin posé sur la télé lui apprit qu'elle était morte. Elle revint sur ses pas, rangea l'aspirateur, dénoua ses cheveux. Elle retourna vers le fauteuil où l'attendait d'habitude Madame Piquemal. Elle observa son absence. Elle sentit un vide, son vide, l'étrangeté de celui-ci. Sans compassion pour la vieille ou pour elle-même, elle dévidait les années qui avaient défilé tous les lundis dans cet appartement. Elle ouvrit les volets, le soleil et le vent s'engouffrèrent pour la première fois depuis la mort du mari. Elle eut vite honte de cette initiative et, consciente de son absurde culpabilité, s'empressa de les fermer.
Alors la femme de ménage, Jérémy, est-ce que c'est une sorte de métaphore, cette femme qui d'un coup est bousculée dans ses habitudes, professionnelles d'ailleurs, de travail, du coup de labeur, de productivité, d'aller nettoyer l'appartement d'une autre personne? Est-ce que c'est une métaphore de notre sensation peut-être à tous dans cette société où on est sur des rails et qu'est-ce qui se passe si d'un coup on perd les rails? Quel est le sens? Où va-t-on?
Métaphore, je ne pense pas, dans le sens où il n'y a pas d'image symbolique cachée. Je n'ai pas voulu faire ça comme un prototype de société, mais simplement noter encore une fois, comme je le disais précédemment, ce qui va se casser. Et la mort, qui est quelque chose de métaphysique, une réflexion sur la mort, c'est forcément sur ce vide, sur l'absence, sur l'éternité, sur le rien. Mais qu'est-ce que ça fait dans la vie de tous les jours quand on travaille? C'est-à-dire qu'elle est ce qui va créer chez le personnage, c'est qu'elle va rentrer chez elle, qu'elle va culpabiliser d'avoir touché au volet auquel elle ne pouvait pas toucher d'habitude, réfléchir à sa propre dégradation biologique et surtout se demander comment elle va faire, maintenant qu'elle a perdu ce boulot d'aide à domicile, de femme de ménage, comment elle va faire pour remplir son frigo. Et c'est ces choses-là, parce que je trouve que très souvent, les grands thèmes de l'humanité sont abordés de manière déconnectée, je trouve, de notre réalité. Et je pense que c'est important de les rattacher sans cesse à notre vécu et de remettre la littérature au niveau de notre propre existence, qu'elle soit la plus humble possible d'ailleurs. Et c'est, on va suivre ce personnage-là qui va justement retourner dans le quartier du Panier, qui n'est pas nommé non plus dans le récit, et on va suivre une de ses voisines dans un autre immeuble qui a elle aussi des problèmes qui mêlent des problèmes de métaphysique et des problèmes de très très simples, de est-ce qu'elle a peur de sortir le soir ou non, avec son chien ou pas pour la protéger. Et on va suivre comme ça des personnages d'immeuble en immeuble d'un même quartier.
Oui, c'est ça, il y a un lien entre chaque chapitre assez subtil, avec ça finit par un chien qui aboie, ça recommence par un autre chien. On se rend compte que tous ces gens sont liés et du coup justement, tous ces gens sont liés. Ça, c'est le premier, c'est un extrait du premier chapitre du roman. On commence par cette femme de ménage et du coup, il y a un lien de classe sociale parce que cette femme de ménage, elle vit dans un quartier historiquement, je dis historiquement parce que le Panier, c'est ça l'est moins, mais même s'il n'est pas nommé, c'est un quartier de la ville très populaire, avec beaucoup de diversité et plutôt pauvre. Et elle va travailler sur une corniche, sur la corniche, vers la mer, tu parles de la mer, etc., chez une vieille dame. On peut se dire, est-ce que tu as voulu parler aussi de la souffrance des gens pauvres, des classes sociales? Mais ensuite, on se rendra compte plus tard qu'il y a des chapitres qui concernent des gens aisés ou qui ont des postes dans la société aisée, des cadres, etc., et qui en fait peut-être ressentent exactement le même vide.
Oui, je pense que c'est lié, c'est qu'il y a effectivement, il apparaît comme on dit un antagonisme de classe entre cette femme de ménage qui a le même âge quasiment que la personne pour qui elle travaille, sauf qu'elle est beaucoup moins riche et qu'elle doit travailler dans cet autre quartier bien plus lumineux. Parce que c'est vrai que le Panier est au bord de la mer, mais imbriqué de petites ruelles où le soleil ne pénètre pas toujours forcément. Mais au-delà de cet antagonisme de classe, je ne parle jamais en ces termes-là d'ailleurs dans le livre, mais c'est quelque chose qui est ressenti, apparemment d'après ce que tu dis. Cette femme qui est morte, Madame Piquemal, on ne la voit pas, mais on imagine aussi toute la solitude de cette femme qui vit à tel point seule qu'elle n'en ouvre plus ses volets. Et c'est vrai que au-delà des injonctions sociales et de l'affrontement qu'on a au jour le jour, c'est cette même galère, ce même fardeau de la solitude que vivent tous les individus qui se retrouvent sectionnés quand il n'y a plus de lien, quand il n'y a plus d'espoir, quoi. Donc oui, on retrouve à la fois ce même, il y a ce jeu de classe sociale et aller à la fois à quelque chose qui est universel dans les sentiments sans jamais l'extraire du contexte non plus de société.
Oui, tu n'as pas voulu dans ton livre l'éclat des fracas, je le rappelle pour les auditeurs, auditrices, le titre du livre, l'éclat des fracas. Tu n'as pas voulu séparer les questions philosophiques, existentielles d'une réalité concrète quoi, de nos vies. Tu n'as pas voulu en faire un thème extrapolé comme si nos vies étaient... Justement, au contraire, tu as voulu les marier, toutes ces deux choses. Est-ce que tu penses que dans notre société, parce qu'il y a quand même un rapport à la mort dans tous ces chapitres de ce livre, à la mort et plus et pas à la mort en tant que quelque chose forcément qui peut être lumineux d'ailleurs, mais il y a une morbidité sombre et qui ne vient pas qui questionne sur la dignité, parce que la mort, le rapport à l'éternité, quand cette femme de ménage elle va sur cette corniche et qu'il y a la lumière, il y a deux fois la phrase la mer était d'un bleu, je sais plus exactement, mais sur le bleu de la mer, deux fois dans le chapitre la même phrase, mais c'est beau quoi, il y a une beauté de l'éternité et du coup de notre mortalité. Mais tout le côté triste de la mort, j'ai l'impression que je le ressens dans d'autres choses, dans l'absence de dignité, dans l'incompréhension, dans la soumission à des choses qui tuent notre individualité, notre singularité peut-être. Comment tu as voulu traiter ça? Est-ce que tu penses que la société a peur de la mort? C'est pour ça qu'elle n'en parle pas? C'est pour ça qu'elle la sépare de la simplicité?
La société, je sais pas, mais la littérature, en tout cas, encore une fois, me semble déconnectée de ces manières de traiter. Et la culture est détenue par la culture bourgeoise en très très grande partie, pour pas dire en totalité. Et du coup, on a une version du rapport à la mort qui est souvent déconnectée du problème d'argent. Par exemple, alors que c'est justement ce qui est sans cesse lié, comment vivre, comment survivre quand le corps abandonne, donc pour moi c'est plus faire redescendre encore une fois l'art au niveau de ce que vivent les gens, et pas continuer à subir un art qui est seulement proposé par des gens que nous ne fréquentons jamais. Si ce n'est par le biais des people ou des grands classiques qui sont tous maintenus par des gens qui avaient le luxe de ne faire qu'écrire. Donc voilà, c'est plus à ce niveau-là qu'au niveau de la société même.
Et on va écouter tout de suite un autre extrait qui d'ailleurs nous présente un personnage qui est un artiste et qui va essayer de trouver qui il est, ou plutôt qu'est-ce qu'il est dans cette société. Et tu mets là en exergue un peu le lien entre l'individu et les institutions, entre le singulier et la masse. On écoute tout de suite ce nouvel extrait de l'éclat des fracas, le doigt de Dieu.
Espaces impraticables, derrière la plat, nos câbles, derrière la pas, l'hameçon, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Damier de panneaux blancs et de néons aux arêtes d'aluminium. Il se dit qu'il y a un poème à écrire sur ce plafond. Un poème qui n'existe pas et qui se décline muettement en son esprit. Accroché à l'angle du mur d'offre d'emploi, les chiffres régulateurs d'attente s'inscrivent en diode rouge sur deux écrans noirs et bombés comme une paire d'yeux aux iris changeants. Un enfant ne veut pas attendre, assis sur les sièges en bois. Il glisse et glisse sous l'expulsion du siège. La mère, à bout de nerfs, finit par le claquer. Il se retient quelques secondes, puis hurle à la mort. Notre poète aimerait brailler de la sorte devant les bureaux des fonctionnaires disposés en demi-cercle, séparés d'une vitre de plastique translucide. Son numéro s'affiche. Il se lève, passe entre les deux parois. La femme, derrière le bureau, un visage massif, rigide, dépité. Une expression à la juste mesure du nouveau cas administratif, une radiation. Suite aux questions et au pianotage du clavier, le visage de la femme s'adoucit. Notre poète, ne recevant aucune allocation, n'en demandant toujours pas, n'est plus un dossier encombrant dans la mémoire de l'ordinateur. Il peut, par une simple touche, être revalorisée d'une mémoire accréditée. La femme, qui se balance maintenant imperceptiblement sur son siège au dossier amovible, lui demande pourquoi prendre la peine de se réinscrire. Il croit ainsi conserver une sécurité sociale. Elle lui apprend qu'il n'en a pas, que l'entretien qu'il subit en ce moment...
On n'a pas la fin de l'enregistrement. Je ne sais pas pourquoi. On a un petit... Ah oui, il a été coupé.
Un bug de téléchargement.
On va aller chercher ça. Est-ce que tu veux nous raconter la fin ?
Si je vous raconte la fin, il n'y aura plus besoin de mettre l'enregistrement. Mais là, on suivait un personnage à Pôle emploi. Maintenant, c'est France Travail. Mais c'était le même quadrillage social, c'est-à-dire de voir comment d'utiliser la littérature comme une investigation et de mettre en relief les conséquences humaines d'une société industrielle et post-industrielle qui abandonne comme ça ses propres sujets, ses propres individus. Et je voulais explorer les arcanes bureaucratiques et administratives qui sont les piliers du quadrillage social. Et de voir comment, à travers ce personnage qui vient demander une régularisation de ses papiers, ce qui se passe quand on se sent en situation de discrimination et de relégation sociale qui nous tient à un pas de la marginalisation et de la marginalité. Qu'est-ce que peut faire advenir la littérature à cet endroit-là, plutôt que de continuer à nous voir les précaires, les sans statut comme des chiffres qui s'additionnent les uns aux autres.
Et du coup, tu suggérerais que cet personnage, cet artiste, il soit comme une sorte de solution à ce chiffrage des êtres humains, au contraire, justement, parce que le personnage se réjouit, en fait, après, dans ce qui a été coupé, de ne pas être rien et d'être considéré comme un demandeur d'emploi. Au final, c'est mieux que rien, parce que, encore une fois, le vide.
Oui, c'est devant cette absence, cette peur totale du vide, il préfère encore avoir ce petit bout de papier-là plutôt que d'être perdu complètement sans statut. Oui. Je ne sais pas si tu as la suite de l'enregistrement, sinon je raconte la,
oui. Alors, attends.
La suite.
Normalement. Ah oui. Alors on va remettre un peu avant où on en était.
La femme, qui se balance maintenant imperceptiblement sur son siège au dossier amovible, lui demande pourquoi prendre la peine de se réinscrire. Il croit ainsi conserver une sécurité sociale. Elle lui apprend qu'il n'en a pas, que l'entretien qu'il subit en ce moment n'a aucun rapport. Il se rappelle n'avoir jamais demandé de remboursement, confirmant lui-même qu'il n'a pas de sécurité sociale, que plus rien, peut-être, ne justifie sa présence ici. La femme prend son souffle, repose la question « Pourquoi prendre la peine de s'inscrire, de s'ajouter à cette interminable addition de noms et de chiffres auxquels il faut répondre ?» Parce que sinon, je ne suis rien. Je n'apparais plus nulle part. Rien, c'est suspicieux. C'est pas pratique d'un point de vue théorique. Et puis, si on me demande ce que je fais, ce que je suis, par exemple, un contrôle de police, je peux répondre, je suis un demandeur d'emploi. Ça n'a rien à voir avec je ne suis rien. Vous comprenez ? La femme acquiesce, tapote le clavier dans le premier silence gêné. Ses traits se creusent, l'extrême fatigue tapie jusque-là remonte à la surface. Une feuille sort cran à cran de l'imprimante bourdonnante, cran à cran, avale tout. La page prouve la réinscription et indique en gras que... Il se lève, la remercie, tous deux sourient par politesse. S'ils se plaignaient l'un l'autre quelques minutes en amont, ils se plaignent maintenant eux-mêmes. Ils rêvent d'un sourire plus simple, de n'être ni là, ni ça. Il entre chez lui, ferme les volets, se déshabille, se couche. Il décompte les nouvelles fissures au plafond et celle-ci s'allonge, se creuse, s'ouvre en une flaque de néant d'où apparaît le doigt de Dieu comme un étron pâle. Tu n'es qu'un demandeur d'emploi, vibre dans tout le corps du poète effrayé. Tu n'es même pas rien. Le doigt de Dieu s'enfonce et disparaît dans les ténèbres.
Tu n'es même pas rien. Auditeur, auditrice, vous êtes toujours sur L'Art Osé, sur Radio Galère, sur 88.4, en compagnie de Jérémy Béchon, auteur de L'éclat des fracas. Et alors, un de ces fracas, cet artiste, ce poète, qui cherche à avoir son papier de demandeur d'emploi, Jérémy, est-ce qu'il a un lien avec toi?
Apparemment, tu m'as reconnu.
C'est pas très compliqué.
Oui, c'est vrai que c'était inspiré de cette hantise que j'ai de l'administration et que comme beaucoup de gens, hein, qui du coup leur font pour une partie des individus qu'il est si dur de subir l'école, qu'il est si dur de subir ce monde abstrait des travailleurs et des non-travailleurs.
Et l'humanité derrière tout ça, et au sens un peu, souvent on emploie ce mot qui veut un peu rien dire, hein. Comme si l'humanité, là je ne parle pas du bien, je parle de l'humanité, le vrai côté humain, dans le bien, le mal, notre noirceur, là il est mis en parallèle avec la machine elle-même, qui va donner le tampon de ce
oui,
qu'il est.
Cette machine, cette assignation, mais l'humanité reste présente pour moi, puisque ce qui était intéressant, c'était de voir le rapport qu'avait ce demandeur d'emploi et la femme qui va actualiser ou non ce statut.
Bien sûr.
Et de voir comment dans la vie, quand on se retrouve face à ces bureaux, on est opposé et on est plein de rancœur. Et puis comment ces choses, si cette machine administrative s'enraye un tout petit peu, de voir comment l'humanité ressurgit de suite. Et de voir l'absence de communication réelle, parce que là, pourtant, ils communiquent à travers des papiers, à travers des demandes, à travers des chiffres, ce qu'on appelle la communication au sens des nouvelles technologies, qui en fait dissocie sans cesse les gens, je pense. Mais là, dans ce bureau, quand les choses se décoincent un petit peu, ils se retrouvent de suite connectés, cette femme et cet homme-là. Et c'est à cet endroit-là que l'humanité, à mon avis, jaillit dans nos rapports-là, de voir que l'affrontement auquel on était prêt n'a aucune valeur, en fait, à part continuer à nous opposer les uns aux autres. Et c'est ce moment-là de décrochage où ces deux personnes-là, d'un coup, sont à l'aise presque d'être l'un en face de l'autre, parce qu'il n'y a plus de demande. Et de possibilités de refus, puisque de toute façon, il ne percevra pas d'argent. Donc s'il ne perçoit pas d'argent, pour la femme, elle peut très bien le garder, puisque ce qu'on lui demande, elle, c'est du rendement et d'écrémer un maximum. Mais si on enlève ces rapports-là, on retrouve deux individus qui ont envie de se parler, même s'ils en sont incapables, parce que le but, c'est pas non plus de se raconter sa vie, elle, c'est son boulot, et lui, c'est de fuir celui administratif le plus vite possible.
Mais il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que tu dis, tu écris, au début ils se plaignaient l'un l'autre, et maintenant ils se plaignent eux-mêmes. C'est-à-dire c'est comme s'ils avaient presque honte d'avoir eu du mépris pour l'autre.
Oui, c'est ça, c'est cette réflexivité-là et cet abandon du mépris de l'autre qui se reporte du coup sur soi-même.
C'est pas l'amour encore.
Non, mais on n'en est pas très loin effectivement.
Mais la grâce approche quoi.
Oui, c'est ces moments-là, effectivement, de faille qui donnent la lumière.
Et du coup, ben, ça me fait tout de suite dériver sur ce... J'avais envie de parler de ça avec toi. Ce livre, il peut avoir l'air sombre, mais il y a une part de lumière qui est là dans chaque histoire, dans chaque personnage. Et des fois, cette part de lumière, c'est la chose la plus sombre. C'est son abnégation, c'est sa soumission. Elle n'est jamais totalement... Elle n'est jamais machinique. C'est-à-dire, ils ont tous cette humanité. Et soit ils ont du mépris, soit ils ont du dégoût, même si c'est pour eux-mêmes. Et du coup, on pourrait dire, ah, c'est... Mais c'est comme si... Est-ce que tu as voulu poser ça, qu'on en est quand même arrivé à une époque ou une société ou des relations entre les gens où, quand bien même, ça paraît triste, mais la lumière, elle est même dans les choses sombres. Elle est même... À partir du moment ou c'est une vraie singularité, une vraie sensibilité humaine. Et qu'en fait, ce qui est, j'ai l'impression, moi, que ce qui est sombre, ça serait qu'on devienne vraiment un rouage, qu'on n'ait même plus la boule au ventre de l'être. Et que la boule au ventre, c'est peut-être ce qui peut nous sauver si on s'y rattache. Est-ce que ça peut nous mener à autre chose ?
Oui, je pense. Je pense que ces personnages-là, en étant plus lucides, sont plus humains. Et qu'ils appartiennent parce qu'ils sont plus lucides, plus translucides à eux-mêmes et au lecteur dans cette crise qui les révèle. Et ils sont à la fois semblables, ils sont tous semblables, mais dans une étrange communauté qui est éclatée parce qu'ils ne croient plus, s'ils ont vraiment cru un jour à l'avenir de ce devenir social. Et ils peuvent trouver, c'est ce que tu appelles la lumière. Ils peuvent trouver, même si ça passe par la confusion, par des symboles, par des visions, par des délires ou par un langage corporel, comme là à la fin c'est le doigt de Dieu qui apparaît dans la fissure du plafond, ils peuvent trouver ce qui les oppresse et ce qui les libérerait peut-être, mais ils ne poursuivent pas ces nouvelles voies entreaperçues parce que le paradoxe c'est qu'ils ne peuvent pas nommer. Et du coup, ils restent libres par la même, par cette non-interprétation de la vie, par cette expérimentation directe de la vie. Ils évoluent dans un monde qui dysfonctionne, dans un monde qui est malade, et on les accuse, quand, comme tu le disais, ils ne s'accusent pas eux-mêmes de dysfonctionner et d'être malades.
Est-ce que, Jérémy, tu as voulu... Quelle est la place de la révolte là-dedans ? Est-ce que tu as écrit ce livre avec une forme d'engagement, avec une volonté de dire non, mais derrière, il y a quelque chose ? Ou est-ce qu'au contraire, c'était non, mais je place une réalité de nos sensations et c'est déjà beaucoup ? Ou est-ce que ces personnages, derrière, tu as voulu faire poindre dans le cœur du lecteur une sensation de révolte, une envie de révolte ?
Oui, je pense que la question de la révolte et de la rage est sans cesse présente dans tout ce que j'ai pu écrire ou mettre en scène. Après, il s'agit d'être sincère avec cette révolte-là et, à mon avis, dans la littérature ou dans la poésie, de voir ce que ça ravage chez l'individu. Parce que les personnages se suivent et s'enchaînent et ils sont à la fois libres et asservis. Et ce sont ils en ont assez de vivre ainsi, ni totalement libres, ni totalement asservis. Ils ont conscience que leur puissance de vie diminue à chaque fois qu'ils respirent au moindre fragment de vie, au moindre chapitre. Mais cette conscience de leur diminution les grandit. C'est comme si ils s'oblitéraient et le trou qu'ils se font eux-mêmes à la fois les expanse et les limite. Donc oui, il y a cette question-là de la révolte contre une société, de la révolte presque contre la matière elle-même, parce que quand on est à ce point-là, chaque élément est une écharde dans le corps et dans l'âme. Mais il y a aussi cette réalité-là et cette révolte contre soi-même. C'est-à-dire que le monde qui nous dégoûte, qui nous révolte, qui nous indigne, mais ce monde-là est en nous-mêmes. Nous sommes imbibés de ce monde-là.
Nous sommes aussi responsables d'une certaine manière.
Et oui, responsables. On ne
peut pas être que les victimes.
Responsables de cette réalité-là. Donc il ne s'agit pas d'inverser les rapports de force, puisqu'on voit bien que dans le roman, ils sont oppressés par ce système-là. Mais de voir qu'ils sont les rouages de ce système-là et qu'ils le propagent en permanence.
Et d'ailleurs, il y a ce thème quand même de la mutilation qui est présent, qui revient. Soit de manière très concrète, soit de manière plus métaphorique. Et je pense à un chapitre où c'est un travailleur qui creuse une tranchée au bord de, je sais plus si c'est au bord de la route.
C'est de la Sainte-Victoire dont tu parlais.
Oui, voilà, c'est de la Sainte-Victoire. Du coup, il est comme observé par cette Sainte-Victoire. Il voit la Sainte-Victoire pendant 5 jours d'affilée. Il travaille, il est tout seul. Un cantonnier tout seul qui doit construire une tranchée pour que la ville mette des l'électricité, tout ça. C'est intéressant, il est très intéressant ce chapitre, parce qu'à la fois, il fait quelque chose pour le commun, au, au fond. C'est vraiment un métier pour tout le monde, qui est impersonnel parce qu'il voit personne, mais qui est pour tout le monde, pour faire passer quelque chose. Il y a le lien avec les, ce qui va être transmis, l'électricité, tous les canaux qui passent sous les trous. Et en même temps, il creuse. Et en creusant cette terre, c'est comme si... Il mutilait quelque chose, quoi. Le paysage, le paysage acier, le... c'est quoi ça, c'est Jacques Prévert, ça, le paysage charbon, le paysage mâche-fer. Il y a un lien avec ça, ce lien entre détruire et construire, et sous le regard de quoi? C'est-à-dire qui nous regarde? Il y a les gens qui passent et qui vont à la boulangerie, qui est le seul commerce à côté, et il y a aussi, mais cette Sainte-Victoire, c'est comme si elle le regardait en permanence. En tout cas, lui, il se sent observé par elle. Et il est très puissant ce chapitre, parce que cette tranchée qui creuse, c'est un peu nous, on est un peu tous à creuser cette tranchée au final. Qui est-ce qu'on est là-dedans?
Oui, c'est la dernière histoire du roman, ou du récit, puisque c'était un roman fragmenté. Et il y a le côté, pour le coup, métaphorique de cette Sainte-Victoire qui est réellement là, mais qui porte bien son nom face aux gens qui triment au pied de celle-ci en permanence. Et puis il la voit non pas du côté où elle a été peinte par Cézanne, mais il la voit d'un autre versant.
Versant nord, c'est ça ?
Ouais, qui est beaucoup plus froid, beaucoup et plus oui. humide.
Et abrupt.
Et abrupt, et beaucoup plus violent, pour lui. C'est cette histoire-là qui a permis que le livre soit édité, puisque Samuel Autexier, qui co-dirige les éditions Quiero, m'avait lu ces histoires-là il y a des années de ça, et il se souvenait de cette histoire-là, qui est la dernière, donc de ce manœuvre qu'on suit tout le long de son travail de trancher dans une terre molle, parce qu'elle a déjà été labourée. C'est quelque chose qui c'est un élément déjà détérioré qui doit encore lui-même bouger pour faire passer effectivement des câbles d'électricité. C'est pas lui qui le fera, mais je lui ai envoyé l'histoire. La petite histoire, c'est que je lui ai envoyé l'histoire avec le fichier complet de toutes les autres histoires, parce que je bossais énormément avec Manifeste Rien et que j'avais pas le temps de découper cette histoire-là. Donc je lui ai dit, ce qui t'intéresse, c'est à telle page. Et du coup, comme j'ai envoyé le fichier dans son entièreté, il a relu tout le livre, enfin qui n'était pas un livre encore, mais tout le fichier, on dira. Et ensuite, il m'a recontacté pour dire, je ne vais pas publier seulement cette dernière histoire, mais on va partir sur la totale de ces différents récits.
Et les éditions Quiero, du coup, tu peux nous en parler? C'est des éditions de la région, nationale?
Ils sont... Quiero, c'est basé à Fort Calquier.
Ok.
Fort Calquiero, en provençal. Mais ça vient surtout, Quiero, en espagnol, c'est « j'aime, je prends ». Donc il y a ce rapport du désir sur lequel Samuel Autexier voulait repartir à l'assaut, parce qu'il est éditeur depuis 30 ans, mais il avait arrêté et il voulait repartir avec ce nouveau désir de littérature, sachant qu'il fait aussi bien de la littérature que de la poésie ou des sciences sociales, et qui mêle là la collection Friction. Il y a donc L'éclat des fracas, il y a Presque comme vous de Alice Carroll, qui est le pseudo de Sadou Chapka. Et il y a aussi un livre de Stieg Dagerman qui s'appelle La seule chose impossible est d'accepter le possible.
Et alors, L'éclat des fracas, ton livre, on peut le trouver dans n'importe quelle librairie
Ou le commander
en ligne directement
Sur le site de l'éditeur, mais c'est vrai que même si économiquement c'est plus intéressant pour lui, il préfère toujours engager les gens à aller en librairie,
ouais.
Aller en librairie le trouver. Donc oui, il y aura notamment une rencontre à l'odeur du temps en mai qui se fera.
Et dont la date n'est pas encore précisée?
Non, c'est pas encore marqué, mais ça se fera bientôt.
Et on vous invite à checker sur internet L'éclat des fracas aux éditions Quiero. Et aussi sur le site de l'Odeur du Temps. Nous, à La Rosée, on vous fera savoir toutes ces informations.
Ce sera également sur le site de Manifeste Rien.
de la compagnie Manifeste Rien, voilà. Vous pouvez contacter Jérémy Béchon via Manifeste Rien. On va écouter un dernier et court extrait.
L'embouteillage.
Ah oui, c'est l'embouteillage ou Broya Double
Je préfère l'embouteillage.
L'embouteillage. Moi. Alors on écoute tout de suite l'embouteillage.
Avec l'alcool de la crémaillère, l'insomnie m'a laissé en paix. Mais je ne suis pas maquillée et n'ai pas pris le temps de chier pour éviter l'embouteillage de 8 heures. 7h30, l'embouteillage est déjà là. Acre et virginale caresse de la première clope. Je descends la vitre, puanteur humide de l'aurore carbonique. J'inspire, expire, mes pensées se stabilisent sur le décor. Panneau publicitaire restant qu'éventré, goudron. J'écrase le mégot, remonte la vitre. L'étron matinal est aux portes de l'anus. Un chaos pernicieux s'installe. J'enclenche le poste radio qui n'émet que parasites et craquements. Si j'ai ce job, j'achèterai un poste. Sans ça, l'embouteillage est un supplice. Si j'ai ce job, il me faudra rembourser mon ex, mon nouvel ex. Dommage qu'il n'ait pas dit de ne pas le rembourser. Quel manque de classe, vraiment. Voiture à l'arrêt, sans radio, ni cigarette. Bilan, éclaircissement, écartèlement, mensonge, panneau publicitaire, restant qu'éventré, goudron. Hier, ma famille a téléphoné pour mon anniversaire. Ils ont tous évoqué, selon leur degré d'impudeur et de grossièreté, qu'il était temps de se fixer, tant d'un vrai métier, tant d'un foyer. Je n'ai avoué à aucun d'entre eux que je vivais de nouveau seule. Je n'ai connu que des fauchés. J'allume le poste qui n'aimait toujours rien. Une histoire de phéromones, je crois. Je dois en avoir des compatibles avec presque toutes les sortes d'hommes, mais incompatibles avec l'argent. J'éteins les grésillements du poste. Il doit être 8 heures maintenant. Il est 8 heures. Et le ciel, toujours plus menaçant. J'ai 33 ans. Depuis 3 jours, 33 ans. La redondance du chiffre m'agace, m'inquiète. Je me souviens de m'être retenue de pleurer avant d'avoir mis le contact, alors que j'observais la file de voitures bloquées à laquelle j'allais m'ajouter. C'est mieux ainsi. Je vais être en retard. Un retard à un entretien d'embauche ne pardonne pas. Le pardon n'est pas de ce monde. Le trafic reprend en accordéon. Lente ascension du soleil derrière les parois de nuages gris, des mouettes passent au-dessus de la voiture. Il ne me reste qu'une chance infime d'être embauchée, que celle qui m'interrogera sur mes motivations pour la vente d'huile d'olive bio soit aussi dans un embouteillage. Me débarrasser de cette voiture avant que les flics ne me demandent un contrôle technique, acheter une autre voiture, faire un crédit pour lequel il faut trouver du travail, pour lequel il faut une voiture. L'autoroute aussi est bouchée. Un camion de pompiers me dépasse sur la voie d'urgence. 1 kilomètre plus loin, le trafic se fluidifie suite au spectacle de ferraille et d'un corps, emballé dans une couverture réfléchissant la menace du ciel. Je me gare sur le parking vide du centre commercial. Le corps, sur l'autoroute, était peut-être celui de mon embaucheuse potentielle. Alors ce n'est que partie remise. J'inspecte mon visage dans le rétroviseur, il ne reste plus trace des larmes. Je sors de la voiture, fais quelques pas sur le goudron. Toujours personne. J'ai oublié ma montre dans la trousse à maquillage que je n'ai pas eu le temps d'ouvrir, ce qui présage toujours des journées merdiques. Est-il encore trop tôt pour décréter cette journée merdique ? Le tonnerre gronde. 3 fois.
Vous êtes toujours sur La Rosée. On vient d'écouter un 4e extrait de L'éclat des fracas de Jérémy Béchon. Roman qui raconte l'histoire de plusieurs personnages de manière dépareillée que vous pouvez trouver dans toutes les librairies aux éditions Kiero. L'éclat des fracas de Jérémy Béchon. Jérémy, on a terminé par cet extrait. L'embouteillage, est-ce que ça ne serait pas un petit peu tous ces personnages dans des voitures, dans des petites caisses en métal, les uns après les autres sur la grande route de la Sainte-Victoire?
Oui, effectivement, pour moi, je voulais que le lecteur visualise. Il n'y a pas de description objective de cette autoroute. À 7 mais qu'ils sentent cette même perdition que chaque individu a dans sa propre voiture quand il doit aller d'un point à un autre.
Peut-être vous d'ailleurs, chers auditeurs, auditrices actuellement qui nous écoutez.
Et qui se retrouvent sans cesse coincés. Les extraits sont lus par Magali Contreras Et dans la version qu'avait choisi Kiro, parce que les récits entremêlés étaient beaucoup plus longs à la base, et Samuel Autexier m'a fait enlever énormément d'histoires à l'intérieur des histoires, et c'est un travail éditorial qu'il a fait qui est très très bon et qui a permis au livre de gagner en punch. Et je sais que je suis sur des retours, même sur des retours négatifs, c'est marrant, qu'a eu Samuel Autexier sur le livre. Les gens n'ont pas réussi à ne pas le lire jusqu'au bout d'une traite. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très important en littérature, de choper les gens. Et ce livre-là, avec ce choix-là plus court, permet d'être lu d'une traite, ou en tout cas de donner l'illusion d'être lu d'une traite, même si on s'y prend plusieurs fois. Et ce passage-là de cette jeune femme de 33 ans qui est coincée dans l'embouteillage et qui en est tellement désespérée sur son propre sort de ne pas trouver de travail, qui en viendrait à désirer la mort de son embaucheuse potentielle, ce qui annulerait son propre retard et qui peut-être annulerait son propre retard dans la vie d'insertion que lui renvoie sans cesse sa propre famille. C'est pour ça que la question de la marginalité est intéressante, parce qu'elle n'est pas marginale si le regard des gens qui lui sont la plus proche ne l'exclut pas de ce qu'on pense être le bien ou mal. Et c'est grâce à Magali Contreras que j'ai réinséré cette histoire-là, puisque dans le premier montage, ça avait été éjecté comme d'autres histoires. Et elle m'a dit, mais non, tu peux pas enlever cette femme-là, cette universalité de partir au boulot sans être maquillée et sans avoir pu caguer.
De même pas partir au boulot, de partir à la recherche du boulot.
Partir à la recherche du boulot, oui.
Et c'est vrai que c'est un livre du coup très percutant. C'est art martial, c'est un coup de poing, c'est une prise de judo, et peu importe avec quoi on en ressort, oui, c'est comme si on avait passé... c'est un court-métrage, quoi. C'est un roman court-métrage très percutant et percutant au foie, quoi. Il y a quand même quelque chose avec le ventre. Il y a un truc avec, voilà, le dégoût, la rage, quelque chose qui nous... Ou les papillons. Il y a aussi les papillons dans le ventre. Ils existent, même si c'est dur de les trouver, mais voilà, il y a ça. Si on n'aime pas des choses, qu'est-ce qu'on aime ? Avant qu'on se quitte, Jérémy, j'aimerais bien que tu me dises un petit peu qu'est-ce que c'est tes inspirations littéraires. Qu'est-ce qui t'inspire en général, toi, dans la vie, aussi en tant qu'auteur de théâtre, peut-être ? Et quelles ont été les inspirations pour ce roman, L'éclat des fracas, précisément ?
Mais, sans vouloir être prétentieux, évidemment, on est influencé par des tas de choses en permanence. Mais j'ai toujours considéré que faire du théâtre ou écrire de la poésie ou écrire de la littérature, le but c'était d'arriver à reproduire l'irréductibilité de notre être et d'arriver à placer ce qu'on avait de plus singulier. C'est pour ça que tu parles du ventre et de ce point de vue-là, et non pas rentrer dans les codes qu'on nous impose en permanence, que ce soit en théâtre, d'un académisme contemporain, très souvent décharné, d'une part, ou que ce soit en littérature ou en cinéma, suivre sans cesse la petite ou grande bourgeoisie parisienne la plupart du temps. Et puis, parce qu'on est tellement imbibé de ça que du coup, on est facilement capable de reproduire ça. Voilà. Ce qui m'intéressait, c'était d'arriver à être au plus proche avec mes propres faiblesses de ce que je suis, par cette médiatisation de l'acte artistique qui permet de partager. Ensuite, bien évidemment, beaucoup de choses, ce qu'on appelle souvent la littérature du ventre, d'ailleurs, mes lectures familières depuis des années, ce sont celles de Louis Calafert, après de beaucoup de choses américaines, John Fante, le fils d'Anne Fante qui est moins connu mais qui est très très bon aussi, Bukowski, Brautigan, tout ça sont des gens qui m'ont forcément influencé, parce que j'ai retrouvé dès que j'ai lu ces gens là j'ai trouvé des frères ou des sœurs. Il y a Virginie Despentes qui dont je, j'allais dire je suis très fier alors que je la connais pas, mais qui fait partie qui fait partie des people et qui à mon sens raconte encore quelque chose dans la littérature aujourd'hui. Donc à chaque fois de retrouver cette forme de fraternité et de voir qu'on n'est pas seul à être dans cette merde là, qu'on n'est pas seul, et c'est pour moi le but de cette d'un acte artistique, de partager encore une fois cette pierre indivisible qui fait le noyau de notre être.
Ben, Jérémy, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur La Rosée. L'éclat des fracas, du coup, un roman qui rassemble les grandes idées de la littérature et qui les mélange et qui les marie avec la réalité matérielle, charnelle de notre vie. Merci de nous avoir partagé tes références. Et vous pouvez du coup retrouver Jérémy Béchon avec le collectif Manifeste Rien, dans des représentations théâtrales. Vous pouvez aller voir sur Internet et vous pouvez trouver le livre L'éclat des fracas aux éditions Quiro, sur Internet aux éditions Quiro, dans n'importe quelle librairie. Évidemment à la FNAC, mais si vous avez une librairie plus proche...
Ouais, on préfère.
On préfère, ça pourrait être sympa, ça fait travailler les libraires. Merci Jérémy, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Non, merci beaucoup de m'avoir invité et partager du coup cette objectivisation qui se fait au fur et à mesure, puisque c'est vrai que le livre est sorti dans la rentrée littéraire en septembre 2025, où il y a tous les grosses machines de guerre de la culture qui sortent, et du coup, mais peu à peu le livre fait son chemin justement avec les gens qui connaissent nos pièces de théâtre et qui... peu à peu, c'est très intéressant de voir les différents échos de cette chose-là qui était dans mes tiroirs depuis des années. Donc merci de m'avoir invité pour ça.
Ben, merci beaucoup Jérémy. Auditeurs, auditrices, on se retrouve dans un mois sur La Rosée. Culture, musique, théâtre, engagement, pas que, charnel, le ventre, on va garder ça. On parle du ventre, on est avec notre ventre. Merci Jérémy et n'hésitez pas à acheter, à lire L'éclat des fracas aux éditions Quiro. Cher Is, cher Heure, bonne soirée.